chers frères et sœurs, bien-aimés, on a tous soif de quelque chose qu'on n'a pas. On a tous soif de quelque chose qu'on n'a pas. En d'autres termes, on attend tous quelque chose. Tous. On est tous fabriqués de la même façon. Tous. Qu'on soit chrétien, musulman, orthodoxe, athée, on attend tous quelque chose qu'on n'a pas. Quand on est enfant, comme ceux-là, là, on voudrait être plus grand. On voudrait être plus intelligent, on voudrait être plus fort, on voudrait mieux connaître les choses. Puis après, on grandit, et les premiers émois, et on voudrait plus de responsabilités, plus de connaissances, plus de diplômes, plus de je sais pas quoi. Puis après, on grandit, on veut la plus belle femme du monde, le plus beau mari du monde, le meilleur évêque, le meilleur curé. Non, sérieux, mais vraiment, toujours. On veut toujours quelque chose. Quand pour ma part, quand j'étais curé sous Lustiger, j'aurais tellement aimé qu'il soit autrement. Et maintenant que je suis curé sous Laurent, je voudrais qu'il soit autrement. Mais on est tous pareils. C'est pas un péché, hein. Soyons bien d'accord. Quand on n'est pas marié, on attend la femme de sa vie. Quand on attend la femme, on a eu la femme de sa vie, on attend les enfants de sa vie. Parfois, ça arrive vite, parfois, ça arrive lentement. Mais une fois qu'on a les enfants de sa vie, on n'a pas les enfants qu'on aurait voulu avoir. Alors quand le moule est cassé, il est trop tard pour en avoir d'autres, alors l'espérance se dirige ailleurs. On attend un meilleur mari. Parce qu'on a attendu le mari, puis un jour on attend le meilleur mari. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est jamais satisfait. Et c'est dans notre ADN, c'est dans notre être. C'est comme ça. On passe notre temps à attendre quelque chose qu'on n'aura jamais. Le mari parfait n'existe jamais, le curé parfait n'existe jamais. Il y a quelque chose qui existe et qui est parfait. Et c'est la seule chose qui nous rassasiera, et on le sait bien, c'est Dieu. Mais enfin, on n'a pas forcément tous envie d'aller tout de suite au ciel. On a peut-être d'autres choses à vivre avant sur la terre. Comme dit Thérèse d'Avila, j'aime bien citer Thérèse d'Avila à ce moment-là, parce que Thérèse d'Avila a une vision extrêmement réaliste, négative, hein, mais réaliste, de l'existence, de la vie. Thérèse d'Avila dit « La vie, c'est une mauvaise nuit dans un mauvais hôtel. » Voilà. Docteur de l'Église, maîtresse spirituelle, a écrit un livre qui décrit les étapes de la sainteté que tout le monde devrait lire, etc. Donc voilà, c'est un peu le canon. Et bien, qu'est-ce que dit Thérèse d'Avila? Mauvaise nuit, la vie est une mauvaise nuit dans un mauvais hôtel, où on passe sa vie à attendre quelque chose qu'on n'aura pas. Voilà. C'est bien négatif, ça pique à mort, mais ça va encore plus piquer dans 3 secondes. Il y en a d'autres qui ont vécu ça. Et c'est intéressant de lever la tête et de regarder un petit peu en arrière. Prenez Noé, dont on a parlé dans l'Évangile. Alors, le gars Noé obéit à Dieu. Il rassemble les gens dans l'arche. Il rassemble les couples d'animaux dans l'arche. Ça va ? Déluge qui dure un temps indéterminé. Il est dans l'arche avec des couples d'animaux. Alors l'arche, elle fait peut-être 350 millions de kilomètres de long, mais enfin quand vous avez, pour un temps indéterminé, depuis très longtemps, des couples d'animaux, au bout d'un moment, l'arche, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça devait hurler dans tous les coins, il devait y avoir une odeur, mais pas possible là-dedans. Et Noé, il n'en peut plus, comme tous les marins du monde. Tous les marins du monde, ils adorent monter sur leur bateau. Et au bout d'un moment, ils n'ont qu'un rêve, c'est d'en sortir. Toujours la même logique. On attend tous quelque chose qu'on n'a pas. Alors Noé, il rêve que d'une chose, c'est que ça s'arrête. Il est en haut du mont Ararat, l'eau a commencé à baisser, mais ça baisse super lentement. Et Noé, il est furax. Mais furax. Et il comprend pas, il engueule le bon Dieu. Est-ce que c'est le seul dans l'Écriture qui vit ça? Cette espèce d'attente inassouvie. Abraham. Dieu vient voir Abraham et lui dit « Ta descendance sera aussi nombreuse. » Alors je ne le fais pas aussi bien que Fabrice, hein, bien sûr. Vous verrez à Pâques. « Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » Ok. Vous avez 25 ans, vous avez 30 ans, vous êtes marié à la plus belle femme du monde. Vous entendez ça de la part du bon Dieu, vous dites « Yes !» Génial. 75 ans, rien. 85 ans, rien. Nada, peau de balle, rien. 95 ans. Au moment où tu crois que tout va s'arrêter pour toujours, apparition du bon Dieu sous la forme de trois anges. Ta femme va être enceinte. Tu peux répéter, s'il te plaît ? Ta femme va être enceinte, et je ne le répéterai pas. Elle, 95 ans, le moule est cassé, normalement. Un fils vient à Abraham, et la descendance d'Abraham se déploie. Le peuple dans le désert, 40 ans dans le désert. Alors 40 ans, ce n'est pas 40 années, hein. C'est un temps très 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 long. Sans aller à la terre promise. Il y a des tas de juifs qui ont été dans le désert, qui ont tourné dans le désert. Alors si vous voyez le désert d'Israël, hein, ce n'est pas un désert immense. Hein. En fait, c'est un tout petit désert. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait des tours et des tours et des tours et des tours et des tours sans jamais, avant d'entrer en terre promise, dans le désert d'Égypte. Ils ont attendu. Comme nous, on attend. Dans l'histoire de l'Antiquité, dans l'histoire de la littérature ou dans la philosophie, il y a un personnage moi, que j'aime beaucoup, c'est Dante. Alors, je n'ai pas tout lu, mais il y a un épisode qui est très intéressant sur ce sujet-là. Dante se fait guider par Virgile. Ça va ? Et à un moment, Virgile est coincé. Il ne sait plus où aller. Il ne sait plus comment mener Dante. Ils sont tous les deux coincés. Jusqu'à ce qu'il y ait un ange qui arrive et qu'il les décoince. Mais l'attente est immense entre le moment où ils sont coincés et le moment où l'ange les décoince. Et dans notre vie, c'est exactement la même chose. On avance, en vrai, on ne sait pas où on va, ça c'est la vérité. Tous ceux qui disent qu'ils savent où ils vont, c'est des menteurs. Si, on sait tous qu'on va à un endroit, c'est dans la tombe. Ça, c'est sûr qu'on y va. Mais sinon, en vrai, on ne sait pas. On vit dans l'attente. Et cette idée, cette réalité-là de l'attente, elle est stigmatisée dans les 4 semaines que nous allons vivre. En 4 semaines, on va pouvoir prendre conscience de quelque chose, vivre quelque chose d'indispensable pour notre bonheur dans cette vie, où notre vie est une mauvaise nuit dans un mauvais hôtel. Qu'est-ce qui se passe pour que la nuit soit meilleure ? Mais le Seigneur nous fait attendre pour une raison simple. Il veut une chose. Qu'on se dégage de notre ego. En gros, le Seigneur nous dit, c'est pas moi, c'est pas toi qui commande, c'est moi. Et pour ça, le Seigneur nous fait attendre. C'est pour ça que le Seigneur nous fait attendre. Il nous fait attendre, en fait, pour nous préparer. Évidemment, pour nous préparer à la vie éternelle, mais avant, pour nous préparer à toutes les étapes de notre existence. Comme Noé, Abraham, le peuple hébreu. Parce que tous, nous avons quelque chose d'extrêmement profond à vivre en présence du Seigneur. Et ce qui nous empêche de le vivre en présence du Seigneur, C'est notre ego. C'est parce que je veux, j'imagine, je comprends, j'ai un plan, il faut que je suive le process, j'ai un projet. Moi, c'est la question qu'on me pose le plus souvent, je vous avoue, quand je vais dîner chez les gens, admirable toujours. Une des questions qui arrive tout le temps, avant le dessert, c'est « Mon père, quel est votre projet ?» Mon projet. Eh ben, j'en ai pas. Et là, je vois très bien dans les yeux des gens que je suis à la limite du tocard plus, plus, plus. Le gars qui n'a pas de projet, ben, c'est un peu le gars qui n'a pas d'avenir. Alors, j'ai passé une soirée comme ça récemment avec des vieilles amies, pour ne pas dire des vieilles copines, de faculté. Elles sont mariées, rassurez-vous, il n'y a rien de... Mais c'était quand même vachement intéressant. À la fin de la soirée, elle me pose la question. Et alors, tes projets, c'est quoi? Peut-être que tu veux devenir évêque. Ben non, ça, surtout pas. Mais alors, après Notre-Dame des Victoires, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus beau? Ben, je sais pas. Et là, je voyais clairement dans leurs yeux que j'avais un problème. Parce qu'elles ont été super maternelles après. Elles m'ont dit, ah bon, t'es sûr? Tu veux pas voir quelqu'un? Alors ça, c'est la phrase. Quand t'as pas de projet, faut aller voir quelqu'un. Alors attention, quelqu'un, c'est pas le curé. Hein. Quelqu'un, en général, c'est un psychiatre ou un psychologue. Comme si le psychologue, il allait régler l'histoire de ta vie. Faut aller voir quelqu'un. Bah non, faut pas aller voir quelqu'un. La vérité, c'est simple. C'est qu'on avance petit à petit et qu'on ne sait pas très bien où on va. Le jour où le prêtre que je suis a mis ses mains dans les mains de l'évêque et a dit, quand l'évêque lui a posé la question, « Promets-moi d'obéir à moi et à tous mes successeurs. » Et nous, on a une trentaine d'années et on dit, « Oui, je le promets. » Je vais vous dire un truc, c'est beaucoup plus difficile que de vivre la chasteté. Hein. Sérieux, vraiment. Quand l'évêque te demande des trucs, parfois, t'as pas du tout envie. Mais entre parenthèses, comme notre épouse, comme votre épouse, votre femme, vos amis, vos enfants, on passe toujours notre temps à espérer quelque chose qu'on n'a pas, qu'on n'obtient pas. Parce que le Seigneur veut nous purifier de notre volonté propre. Et donc, ces 4 semaines qui arrivent, c'est une chance inouïe pour se mettre devant le Seigneur et dire au Seigneur, « Ok, Seigneur, j'ai plus de projet. Mon avenir est dans tes mains. Voilà. Je vais apprendre à vivre avec toi. Mon présent, les semaines qui viennent. » Alors, je vois certains d'entre vous qui sont en train de se dire dans leur tête, alors celui-là, c'est un vrai bisounours. S'il s'imagine qu'il ne faut pas réfléchir à ce qui va se passer plus tard pour pouvoir préparer Noël, par exemple, pour pouvoir préparer... J'ai pas dit ça. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas préparer de façon raisonnable les choses quotidiennement pour qu'elles arrivent. Si vous allez au mois de février à la Martinique, c'est maintenant qu'il faut commander votre billet d'avion, hein, à arrêter les bêtises. Enfin, même plus tard, l'été. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis juste en train de vous dire que dans 4 semaines, notre façon de vivre sera plus joyeuse et plus paisible. Parce qu'on ne s'étonnera pas d'attendre. Et parce que pendant qu'on attend, on saura profondément que le Seigneur est à l'œuvre en nous et prépare quelque chose de magnifique, dont les prémices nous sont montrées dans notre existence, si on est assez attentif. La vérité, c'est que la vie ne tourne pas autour de nous. Cette phrase, chers frères et sœurs, j'aimerais bien qu'on la prenne par cœur. Je vous dis les choses avec beaucoup de simplicité, mais la vie ne tourne pas autour de moi. C'est simple. La vie, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe C'est l'histoire des peuples, c'est l'histoire des civilisations, c'est l'histoire des cultures, c'est l'histoire de la pensée, c'est l'histoire de l'art, c'est tout ça, et c'est extrêmement complexe. Et qu'il y a une seule personne qui est capable de nous parler d'avenir. Il y a une seule personne qui peut nous mettre au bon endroit, au bon moment, c'est Dieu Tout-Puissant. Et il le fait. Et Dieu nous met au bon endroit, au bon moment. Il le fait vraiment. Allez voir dans l'Écriture, Isaïe, souvenez-vous de ça, Isaïe 60, 22. J'aime pas donner les numéros de téléphone comme ça, mais souvenez-vous, Isaïe 60, 22. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que dit le Seigneur dans cette phrase d'Écriture ? Les sœurs, elles le savent par cœur. « Moi, le Seigneur, ton Dieu, quand il sera temps, j'agirai vite. » Moi, le Seigneur, ton Dieu, quand il sera temps, j'agirai vite. Et c'est ce que fait le Seigneur dans chacune de nos vies. Simplement, on perd la mémoire. On perd la mémoire qu'on a attendu notre femme et puis qu'on s'est marié. Et puis qu'on a été très très heureux de l'aimer, ou notre mari, ou notre évêque, ou notre paroisse, vous voyez. On perd la mémoire de ce que le Seigneur nous a déjà donné. Chers frères et sœurs, moi, pour ma part, j'ai compris ça, ça anime mon cœur depuis très 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 longtemps, c'est l'histoire du pape Jean XXIII, relayée un petit peu par Benoît XVI. Mais Jean XXIII, c'est la caricature de la caricature. 72 ans, nonce apostolique, là où il y a des barques super belles, à Venise. Nonce apostolique à Venise, 72 ans. 72 ans, frères et sœurs, pardon pour ceux qui ont cet âge-là, mais en général, que vous soyez dans l'église ou un grand businessman, c'est bon. Et lui, il était super content. Vous savez, il a été nonce à Paris, il a une très 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 belle carrière, il a fait beaucoup de bien. Il va au conclave, il a 72 ans, aucun risque, c'est bon. Élection pape. Et il va être pape pendant 4 ans. Ça, il ne le sait pas encore. Ce gars-là, à 72 ans, il va changer la face de l'Église. En commençant le Concile Vatican II, dont on n'a pas encore compris à quel point il peut nous faire du bien. Il avait 72 ans et le Seigneur s'en est servi. Mais est-ce que Jean XXIII aurait pu faire ça s'il n'y avait pas eu toutes les étapes qui avaient précédé avant ? Il faut qu'on mesure ça, les amis. Il faut qu'on mesure que tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant, là, à l'instant, assis sur vos bancs en bois, trop durs, ce sont des étapes de préparation qui vous aident à traverser les étapes les unes après les autres, jusqu'à la mort et la rencontre avec le bon Dieu, tout simplement. C'est pour ça que dans l'Évangile, on a entendu que vous ne savez ni le jour ni l'heure, et vous allez passer toute votre vie à attendre, mais c'est pour pouvoir vous détacher de vous-même et enfin vivre avec moi, simplement. Voilà ce que je vous invite à vivre, un peu comme Jonas, si vous voulez. Le prophète Jonas, vous savez, qui est dans le bateau, Dieu lui dit, va convertir Ninive. Il part de l'autre côté, de l'autre côté du bateau. Alors, de l'autre côté du bateau, c'est pas très loin en général. Hein. Sauf que là, ça va mal se passer, il va finir au fond d'un poisson, 3 jours. Et qu'est-ce qui se passe dans le fond du poisson ? Quand dans le ventre, alors tout ça c'est symbolique, hein. Jonas prend conscience que Dieu est là. Jonas prend conscience, et quand il a fini de prendre conscience, il est rejeté sur la plage. Il va toujours essayer de ne pas faire ce que le bon Dieu lui demande, sauf qu'au bout d'un moment il finit par le faire. C'est ça notre vie, et c'est ça les semaines qui viennent. C'est 4 semaines pour apprendre ce que le bon Dieu veut de nous, pour apprendre à vivre avec lui, paisiblement, en lui abandonnant tout ce que nous sommes, notre intelligence, notre volonté, notre mémoire, nos plans d'avenir, pour nous-mêmes, pour notre famille, pour tout ce qu'on aime. Amen.